Ça vaut le détour avec Luc Fortin.
Bon jeudi. Nous sommes le 23 septembre. C'est vrai? C'est vrai. 24. Oui, merci Rémi. Il me semblait que... Je me disais que la semaine prochaine, c'était supposé être le début du mois d'octobre, jeudi prochain. J'espère que ça va bien chez vous, que vous êtes un petit peu plus à l'endroit dans votre cérébral que ce qui se passe dans le mien. Aujourd'hui, entre autres, on va causer d'un organisme que je découvre possiblement avec vous, qui s'intéresse à la déficience intellectuelle, DADADO, qui est, entre autres, pignon sur rue à Onsic, sur le plateau, et on prévoit une petite expansion rurale. Alors, on y revient, on revient également sur les parapanaméricains avec notre première visite de l'ami Pierre Mainville. Pierre, qui, on le souhaitait, là, n'aurait pas pu être là au début de notre saison pour revenir sur les parapanames, mais en même temps, on va commencer à jeter un coup d'œil vers Rio, puisque certains se sont qualifiés et d'autres devront continuer à se battre pour avoir une place à Rio. Anne-Laure vient nous parler d'une émission qu'elle réalise, que vous connaissez peut-être ou que vous découvrirez peut-être comme moi. Si vous êtes des genres, on écoute Ça vaut le détour en balado-diffusion, on n'est pas nécessairement des assidus de la programmation de Canal M, ben, vous allez peut-être vraiment y trouver votre compte avec Audio Portrait. Et on démarre avec une petite incursion... Sommes-nous dans Livy-Lauzon, dans Beauce-Appalaches ou dans le Bas-Saint-Laurent? On va poser la question à René Hébert, qui est agente d'information et de liaison pour l'Arc-en-Ciel situé à Montmagny. Bonjour, René.
Bonjour.
Où sommes-nous côté région québécoise?
Ben, en fait, on est en Côte-du-Sud, dans la région Chaudière-Appalaches, sur la rive sud du Saint-Laurent, à peu près à une heure de Québec.
Au niveau de la situation géographique, ça allait bien. Côte-du-Sud, donc. Et est-ce que les Bernaches et les Oies ont commencé à s'installer, mais ne sont pas encore partis, là?
Non. Et ils viennent tout juste d'arriver, les premières qu'on appelle les éclaireuses, là, viennent tout juste d'arriver. Donc, le gros s'en vient là, dans les 2-3 prochaines semaines.
Avec le gros festival également chez vous.
C'est ça, c'est en plein ça.
Ouais. Est-ce que le festival tient une petite note touristique pour aider l'économie locale? Est-ce que ça a lieu le premier week-end d'octobre ou le long week-end?
C'est le même week-end là, que de la fête de l'Action de grâce.
Parfait.
Oui, le long week-end.
Bonne idée.
Oui.
Donc, vous avez, au printemps dernier, lancé un guide dont vous êtes co-rédactrice, à savoir un guide d'information pour sensibiliser aux troubles du spectre de l'autisme. Dieu sait que c'est très large, le TSA.
Oui.
Je suis curieux, il y a combien de pages, ce guide-là?
Tout près de 100 pages.
OK.
Oui. C'est ça. On fait le tour vraiment de la question là, à partir du moment où est-ce que la famille reçoit le diagnostic, on fait une définition de l'autisme, on va faire le tour des caractéristiques, des principales caractéristiques. Et puis ensuite de ça, on va s'attaquer à la démarche diagnostique, les principaux états qui peuvent être associés aussi à l'autisme. Et puis, ensuite, il y a une deuxième partie qui est vraiment plus volumineuse dans le guide. C'est la partie où on décrit tous les services qui sont disponibles, que ce soit dans le réseau public de la santé qu'au privé, dans les milieux scolaires, dans les organismes communautaires. Bien entendu, on y va dans les services qu'on a de disponibles en Chaudière-Appalaches et qu'on peut aller chercher aussi à l'extérieur. On parle des subventions possibles, du processus de plainte qui souvent, c'est un incontournable à un moment donné ou un autre dans la vie d'une personne autiste et de sa famille. Ensuite aussi, on a une autre partie qui fait un tour d'horizon sur les interventions possibles en autisme. Bien sûr, on explique qu'est-ce qui se fait dans les centres de réadaptation du réseau public, mais on nomme aussi les approches considérées comme alternatives. Notre but ici, là, c'est pas de conseiller une approche plus qu'une autre, mais simplement de donner de l'information. Puis par la suite, si le parent veut aller plus loin, on donne des références vers les sites ou les ressources plus spécialisées.
Par hasard, avez-vous des trucs pour les parents? Comment obtenir un diagnostic un peu plus précoce? Parce que On le sait, c'est long et de plus, on entend de plus en plus que si l'enfant pouvait être diagnostiqué plus rapidement, il pourrait obtenir des services et peut-être minimiser un peu les inconvénients causés par le TSA.
Oui. Bien, vous savez, les parents sont quand même assez alertes. Hein. C'est eux qui vivent avec leur enfant, ils connaissent leur enfant. C'est sûr que nous, dans la première partie du guide, on va énumérer une série de caractéristiques de manifestations qui peuvent les aiguiller. Mais c'est surtout que le problème, c'est la lenteur du système. Quand on veut obtenir le diagnostic, il y a quand même quelques mois d'attente. Et puis après, quand on a le diagnostic, bien, il y a encore une série de mois qui vont suivre où est-ce que le parent va sortir du bureau du médecin avec son petit papier qui dit « Bon, mon enfant a un trouble du spectre de l'autisme. » Sauf que, par où je commence? Ouais. Les services de réadaptation vont arriver seulement dans plusieurs mois. Donc, dans le fond, c'est ça le but du guide. Hein? C'est vraiment de leur donner quelque chose en attendant d'avoir les services du réseau public.
Je suis curieux, vous avez un enfant avec un TSA qui a maintenant 19 ans. Oui. Si vous aviez eu un guide comme celui-là lorsque le diagnostic est tombé, qu'est-ce que ça aurait changé?
Oh mon Dieu, ben j'aurais été beaucoup plus proactive, je pense. Parce que moi, je fais partie, malheureusement, de la catégorie de parents qui faisaient très, très confiance au réseau de la santé, qui nous disaient « Inquiétez-vous pas, Mme Hébert, ça s'en vient, vous allez avoir les services. » Puis bon, mais à un moment donné, ça fait que mon enfant a eu son diagnostic seulement à 7 ans. Donc, l'école était commencée, les difficultés étaient déjà bien installées. C'est sûr que, bon, un coup qu'on met les services en branle, ça finit par se tasser, mais on aurait évité beaucoup, beaucoup de problèmes si on avait eu le diagnostic un petit peu avant. Donc, et si j'avais eu ce guide-là qui m'aurait dit, bon, ben en attendant d'avoir les services, tu peux aller t'informer de tel côté. Il y a tel organisme qui peut t'offrir des services ou peut-être un réseau de parents qui peuvent te soutenir aussi. Donc, c'est sûr et certain que en écrivant, en collaborant à la rédaction de ce guide-là, ben moi, j'avais mon cheminement aussi en arrière de moi. Puis, je me disais, bon, ça, les parents, ils vont se poser des questions sur cette étape-là de vie. Donc, c'est important d'en parler.
Vous parliez de proactivité. C'est peut-être quand même difficile lorsque le diagnostic n'est pas tombé de commencer à investiguer de ce côté-là parce que peut-être qu'on ne veut pas
Exactement.
Le savoir.
Oui, puis... maintenant, c'est sûr que, bon, la recherche aussi, il y a beaucoup de sensibilisation qui se fait dans le milieu professionnel aussi pour dépister précocement l'autisme. Et c'est quand même, il y a des cas qui sont plus difficiles à dépister que d'autres, hein, parce que les signes, ils sont pas tellement visibles jusqu'à temps que l'enfant, justement, entre dans le réseau scolaire, puis que là, on voit nettement qu'il ne va pas combler les attentes de qu'est-ce qu'on attend de lui.
Bien, comme je disais, le spectre est tellement large. On n'a qu'à comparer, bon, le trouble envahissant du développement avec un autisme sévère.
Oui, oui.
Je veux dire, un est beaucoup plus facile à détecter probablement que l'autre.
C'est ça. Et puis, c'est pour ça maintenant qu'on va parler du spectre de l'autisme au lieu de donner des diagnostics comme Asperger, trouble envahissant non spécifié ou autisme. On va plutôt parler du spectre de l'autisme maintenant avec les nouveaux diagnostics parce que, justement, on peut donner une couleur, justement, à l'autisme de l'individu. On va le situer dans des niveaux au lieu de le catégoriser dans... Mm-hmm. Donc, justement, un diagnostic qui, des fois, n'était pas tout à fait, là, en tout cas, avec la définition là, de ce qu'on en disait.
Mais René, je ne sais pas si vous savez cette réponse-là, mais au milieu de l'éducation, est-ce que tous les TSA ont la même cote parce que tous les TSA ne représentent pas le même défi pour l'enseignant?
Oui, oui. Mais en fait, oui, la plupart des TSA ont la même cote. C'est sûr que c'est pas les mêmes défis. Il y a des TSA qui sont atteints très sévèrement, qui vont être dans des classes spécialisées et même des écoles spécialisées. Ouais. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les TSA qu'on dit de haut niveau vont souvent avoir beaucoup plus de difficultés à cheminer dans les classes régulières parce qu'ils ont une intelligence très, très normale. Hein. La plupart des autistes ont une intelligence normale, mais les autistes de haut niveau vont être très performants au niveau académique, mais vont avoir tellement de difficultés à s'adapter à l'environnement scolaire, au milieu, la classe. C'est des enfants qui ont beaucoup d'hypersensibilité, beaucoup d'anxiété. Donc, si on compare, la difficulté d'un TSA de haut niveau dans le milieu scolaire est aussi grande que celui qui va être dans une classe spécialisée ou dans une école spécialisée. Donc, moi, je pense que c'est un peu, c'est une bonne chose en ça, qu'il y ait la même cote pour pouvoir recevoir les services adéquats.
Intéressant. René Hébert est agent d'information et de liaison pour l'Arc-en-Ciel, situé à Montmagny, et elle est co-rédactrice d'un guide d'information et de sensibilisation sur le trouble du spectre de l'autisme. Il y avait combien de copies au départ, au printemps dernier?
Au printemps dernier, on avait fait imprimer 600 copies. On avait estimé que sur notre territoire et avec la distribution qui se faisait en partenariat avec le réseau de la santé, on avait estimé que 600 copies, c'était suffisant. Mm-hmm. Sauf que on a eu beaucoup de demandes de l'extérieur de Chaudière-Appalaches, ce qui nous a fait très plaisir, mais en même temps a épuisé quand même notre réserve assez rapidement. Donc, c'est un mal pour un bien parce que là, présentement, on sort la deuxième édition. Là, elle va être disponible au début du mois d'octobre, juste à temps pour le Salon de l'autisme à Laval. Et puis, c'est ça, on en a profité d'ailleurs pour faire déjà des corrections parce qu'on sait que dans le réseau de la santé, il y a eu quand même plusieurs appellations qui ont changé. Donc, on a profité pour faire des petites corrections. Donc, c'est déjà une version améliorée qu'on va avoir entre les mains la semaine prochaine.
En même temps, il y a toute la section adresses et suggestions pour la région qui, elle, ne sert qu'aux gens de votre bout de pays.
Oui.
Est-ce qu'il y a quand même des pourparlers pour que, une association régionale dise « Moi, j'aimerais avoir accès à tout le reste et je bâtirai une section référence régionale pour ma gang? »
Oui, bien, en fait... j'ai pas eu vraiment de pourparlers avec d'autres régions officielles, mais nous, dès le départ, on l'a mentionné que ce guide-là était ouvert à toutes les autres régions du Québec. Et puis d'ailleurs, les associations régionales en autisme, là, dans chaque coin du Québec, ont leur propre guide de ressources, de coordonnées. Donc, c'est facile.
Reste à le greffer, c'est tout.
De le greffer.
Ouais, ouais, ouais.
C'est justement parce que c'est sûr que les parties, comme la partie 4 qui traite de l'environnement familial et social, eh bien, ça peut s'appliquer à tout le monde. Puis je voulais mentionner aussi que nous, dans le fond, on n'a rien réinventé, c'est qu'on a simplement tout rapatrié l'information dans un même document. Donc, c'est sûr et certain que si les gens veulent s'en servir, bien, c'est numéro un.
Donc, OK, il y a le Salon de l'autisme où il y aura des exemplaires, mais sinon, une fois que celles-ci seront réimprimées, où pourrait-on se les procurer?
Bien, en fait, pour les gens de la région Chaudière-Appalaches, ce sera via notre organisme ou par leur intervenant du Centre local de services communautaires, c'est ce qu'on appelle le CLSC. Mais pour les gens de l'extérieur, il s'agira simplement de nous contacter directement. Le guide pour les gens de l'extérieur, pour les gens de Chaudière, les parents, pardon, de Chaudière-Appalaches est gratuit, mais pour les gens de l'extérieur, il va se vendre 12 $. Donc, il s'agira de nous contacter directement à l'Arc-en-Ciel ou soit passer par le formulaire web de notre site Internet et puis on prendra les mesures nécessaires pour faire parvenir les guides à ceux qui en voudront.
Les détails sur vusezvoix.com, allez sous le Ça vaut le détour du jeudi 24 septembre. René Hébert, merci beaucoup, beaucoup.
Merci à vous.
Bonne continuité. Anne-Laure s'en vient.
Au revoir.
la mise en onde, Rémi Hermoso, recherchiste de Ça vaut le détour, Anne-Laure Janson, que j'accueille en studio. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Luc.
Vous ne faites pas que travailler pour moi, même non. Si j'apprécie beaucoup, beaucoup. Vous êtes également associé à cette idée de départ qu'avec Clotilde, audio-portrait.
Audio-portrait,
ouais.
Tout à fait.
Par les mains.
C'est une nouvelle émission de Canal M, diffusée tous les mardis à midi, rediffusée maintes et maintes fois et accessible aussi sur internet visevoix.com, qui en fait vous met en tête à tête avec une personne qui a une vie très riche, qu'on a voulu qu'elle nous partage. Et toutes ces personnes ont un point commun, c'est qu'elles ont une déficience visuelle. Certaines voient un tout petit peu, ont une basse vision, comme Christine Rousseau, qu'on a reçue et son émission a été diffusée ce mardi. Christine Rousseau, c'est une jeune avocate de 29 ans qui est atteinte de la maladie de Stargardt et qui donc ne peut pas lire parce que sa vision centrale est touchée, mais qui a quand même réussi à passer son barreau. Puis maintenant, elle a son cabinet d'avocat et elle est spécialisée en droit de la personne. Donc, on passe une heure avec elle, elle nous explique, elle nous raconte sa vie, elles nous font part de leur parcours, de leurs embûches, de leur résilience aussi, comment elles ont réussi à passer certains caps et ce qu'elles ont accompli, parfois admirablement. Mmh. Et puis, c'est ça, leurs idées, leur vision de la société aussi, leur regard.
Vous avez quelques secondes de ce qu'a livré Christine?
Oui, Christine, j'ai choisi un extrait sur sa volonté d'être comme les autres, finalement. Ça, alors attendez, c'est l'extrait. Voilà, on va l'écouter.
Pour ma mère, je dirais que elle y a toujours cru. Ma mère, je pense qu'on a ça en commun. On est très idéaliste, on se dit qu'on peut croire en nos rêves puis on va les réaliser. Mon père aussi était plus protecteur, était un peu plus que ma sœur. Il me disait que, voyons, pourquoi t'as donné tant de mal? Tu peux choisir autre chose, ça va aller mieux. Il me semble que t'auras pas besoin de te forcer autant. Donc, quand même, mes deux parents, autant financièrement qu'un appui moral inconditionnel... a fait en sorte que j'ai pu réussir aussi, hein, parce que c'est clairement grâce à eux aussi que j'ai pu réussir.
Oui, et elle parlait aussi dans ce portrait-là de sa naïveté qui lui aura servi. Elle a choisi de ne pas écouter trop sa sœur et son père, d'aller plutôt avec l'élan que lui donnait sa mère et surtout cette naïveté qui peut-être lui montrait que... ou lui faisait présumer que ce serait plus facile que ce le fut, finalement.
Exactement. Ouais. On peut dire que c'est ce qui lui a donné les ailes. Et après, c'est aussi sa persévérance, je crois, qui lui a permis d'arriver où elle en est aujourd'hui.
Vous avez croisé également ce cher bon vieux M. Cousineau.
Oui, j'ai croisé Gérald. C'était mon premier invité. Gérald, qui est biographe au Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec et qui donc a été l'arroseur arrosé en ouverture et qui a effectivement ouvert le bal de façon magistrale, très, très théâtrale, extrêmement intéressant, très drôle.
Le biographe biographié.
Exactement. Ouais. Donc Gérald, lui, il nous explique... je pense qu'il est passé, on le sent dans son récit, par beaucoup d'étapes difficiles dans sa vie. Et là, à 66 ans, il arrive maintenant à jouer son propre personnage. Et on peut l'écouter, là, il explique comment il a décidé de plus s'apesantir sur son sort.
Il y a toujours pire que soi. Et pendant longtemps, j'avais tendance à m'apesantir sur mon pauvre petit sort, à m'apitoyer sur moi-même. Et là, j'essaie. Enfin, je pense que j'y suis arrivé. J'essaie de ne plus faire ça. Maintenant, je recours de plus en plus à l'humour pour justement montrer que non, on peut vivre une vie presque normale malgré ça. Ce n'est pas la fin du monde. Non, ce n'est pas la fin du monde. Contrairement à ce que certains voyants peuvent croire, non, la cécité, c'est pas le bout de la vie, c'est pas la fin du monde. On peut vivre même avec un sens en moins. Mais... C'est sûr que la personne touchée doit faire un bon bout de chemin par elle-même. Entre vous et moi, le monde n'a pas été créé d'abord pour les non-voyants. Hein? On s'entend là-dessus.
C'est intéressant, ça. Et en même temps, par lui-même ou par elle-même, hein, la personne doit faire un bout de chemin par elle-même.
Mm-hmm.
C'est tellement nécessaire, un peu épeurant et difficile pour l'entourage de lâcher prise.
Pour l'entourage, la famille?
Oui, la famille, l'amoureux, l'amoureuse, peut-être les enfants, je ne sais pas, mais de ne pas savoir finalement quand dois-je intervenir et quand dois-je laisser la personne s'embourber dans ses pinceaux, mm-hmm, et se démêler.
Oui, oui, oui. Ben, la famille et notamment les parents sont très présents dans les émissions qu'on a enregistrées jusque-là. Christine en parle, donc on vient de l'écouter. Il y a Janine Vanier aussi qui est la première à avoir
été... Elle aussi parlait de sa mère.
Exactement, elle aussi parlait de sa mère. On peut l'écouter.
Je sais que ma mère, des fois, me disait... que je manquais un peu de... Elle aurait voulu avoir, je pense, plus de tendresse pour moi. Des fois, elle me disait « touche mon visage ». Je n'étais pas portée à le faire. Alors, je l'aimais, maman, c'est sûr, mais je réagissais des fois, peut-être parce que, inconsciemment, je réalisais que je ne pouvais pas être comme les autres. Mais là, j'essaie de m'imaginer... voyante, puis prenant soin de mes frères, puis aidant maman à préparer des choses, parce qu'elle a travaillé tellement, s'occuper de nous, puis d'aider papa au commerce, puis enfin un tas de choses. Ça a été une vie vraiment difficile pour elle.
Mais moi aussi, je pense que j'aurais eu un certain malaise à répondre à la demande de ma mère et mettre mes mains dans son visage et... Je sais pas. Je peux comprendre, Mme Janine, d'avoir eu ce malaise-là.
Mm-hmm. Ouais. Ben, dans le fond, c'est ce que... Là, cet entretien de Mme Vanier s'est fait avec Clotilde, qui a réalisé la première émission d'Audioportrait. Et c'est vrai qu'elle disait qu'elle n'était pas une personne facile, elle lui a dit en rigolant.
Ben voyons donc.
Exactement. Et tout le monde, enfin tous ces gens ont beaucoup d'humour. Moi, j'apprends énormément à leur contact. Je pense que c'est vraiment fascinant, en tout cas. Excusez-moi, là, c'est larmoyant, mais Janine, elle, c'est quelque chose que je retrouve chez plusieurs personnes que j'ai interviewées. Parfois, ces réactions. Tabou sur le toucher ou l'affection qui a parfois manqué ou cet isolement affectif. Je ne sais pas s'il y a un lien avec le handicap visuel, mais je l'ai retrouvé chez plusieurs.
Vous avez fait d'autres rencontres?
J'ai fait d'autres rencontres, notamment Gérard Saint-Denis, qu'on va écouter mardi prochain, qui lui est aussi un personnage débonnaire plein d'humour et qui a perdu la vue à 67 ans d'une dégénérescence maculaire. Et on peut écouter sa réaction.
Je me suis levé de bord et je me suis dit, oh, marquez bien pendant la première semaine, après le verdict, et le matin, quand je me levais, j'écoute RDI, j'ouvrais la télévision, je me disais, un matin, je vais voir. Mais je voyais pas mieux, c'est pas vrai. C'était une espèce de... On se fait croire ça. Moi, ça a duré une semaine. Il y en a que ça dure pendant 5 ans qui se font croire ça. Moi, ça a duré une semaine. Au bout d'une semaine, je me dis, je verrai pas mieux, c'est pas vrai. Il va falloir que je fasse d'autres choses. Et c'est là que j'ai appris, c'est ma copine Anne-Jarie qui m'a expliqué ça. Elle dit, tu sais, Gérard, elle dit, quand tu te lèves le matin, elle s'est dit, qu'est-ce que tu vas faire avec ce que t'as, et non pas avec ce que t'as pu. Et ça, c'était ma vie après 67 ans.
Alors voilà, Gérard, qu'on va pouvoir écouter mardi prochain. J'ai reçu
Gérard aussi... disait la même chose.
Oui,
c'est une réalisation essentielle.
Oui, oui, oui. Mais Gérard, parce que peut-être ça arrivait tard et parce qu'il il avait sa personnalité, ça a été très rapide à l'écouter. Gérard, ça a pris plus de temps. Il m'a vraiment dit que c'est dans la soixantaine qu'il s'est réalisé complètement. Il est passé par le théâtre, la littérature l'a énormément nourri pendant toutes ces...
Moi, c'est dans la quarantaine, alors
voilà.
C'est long, donc c'est... pour certaines personnes.
Exactement, mais là, il y aura Nicole Trudeau qu'on va pouvoir entendre début octobre. Nicole, on va beaucoup parler avec elle de l'image, parce que aveugle d'une rétinite pigmentaire quasiment dans la toute petite enfance, elle se dit personne visuelle. Mm-hmm. C'est une visuelle, elle dit qu'elle n'est pas dans le noir, qu'elle voit des images partout, qu'elle visualise le braille, etc. Donc on va plus aborder avec elle toute cette question-là, ce qui la passionne, avec une vie aussi, une volonté de faire, 3 ans à Paris toute seule,
oui,
dans la vingtaine.
Oui, une artiste dans l'âme, là.
Exactement.
Ouais. Ça me conforte toujours d'entendre Nicole dire ça, parce que moi-même, j'avoue que je manque l'image, surtout certaines images, et... des fois, j'ai toujours l'impression d'être seule jusqu'à ce que j'entende Nicole Trudeau.
Mmh. Ouais. Les prochaines invitées, rapidement, Lise Veilleux, qui est massothérapeute à Longueuil, qui a écrit aussi plusieurs livres. Peut-être Luc Fortin, si on arrive à lui trouver une date.
Ouais, mais je me dis que les gens m'entendent tellement.
Ouais,
là.
Mais je pense qu'ils ne se lasseront pas. Alan Conway, peut-être. Yves Séguin, Florence Pardo, peut-être Anne Jarry, c'est pas encore confirmé, et Harry-Pierre Etienne.
En tout cas, ce serait sympathique, Anne Jarry, si elle a donné des bons conseils comme ça à... Gérard Saint-Denis, elle a sûrement des choses à nous dire à nous.
Oui.
Merci beaucoup, Anne-Laure. Donc, mardi midi, entre autres.
Oui, mardi midi.
Sur le site de Canalem, sur levisevoix.com.
Exactement. Rediffusé le samedi à 18h, le dimanche à 13h.
Et vous nous avez concocté une rencontre avec Daniel Daumont, tout de suite après la pause.
Écoutez, ça vaut le détour, avec Luc Fortin et ses invités.
De retour, on a déjà engagé la conversation, Daniel et moi. Daniel Daudon, qui est artiste.
Daumont.
Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Vous êtes artiste et fondatrice de l'entreprise sociale Da-Da-Do.
Voilà.
Je comprends un des deux Da avec Daniel.
Oui.
Je comprends le Do pour Daumont.
Bravo.
Le deuxième Da...
Dada pour Daniel, tout
OK,
simplement.
D'accord. Dans la cour d'école, on vous surnommait Dada?
Non, c'était un peu plus tard.
OK, mais ça colle à vous.
Ah oui, absolument.
Vous êtes présente, l'organisme, j'entends, sur le plateau à UNSIC et, me dit-on, vous pensez à prendre de l'expansion en ruralité.
Ouais.
Parlez-moi un peu des buts de lancer cet organisme-là et... Disons, comment se positionne la déficience intellectuelle dans votre vie pour que vous vous y intéressiez?
Mais en fait, ça a toujours été un rêve, ça a toujours été une passion d'aider les gens à travers l'art et aussi tout simplement aider les gens. Et puis, le parcours a fait que j'ai été plus souvent qu'autrement en relation d'aide avec des personnes qui avaient des déficiences intellectuelles. Donc, j'ai appris beaucoup à les connaître et à beaucoup les aimer, avoir beaucoup d'affection pour ces gens qui sont assez extraordinaires. Et puis, voilà, j'ai composé beaucoup avec ça et on a fait plein d'activités et ça a grandi. Et puis, ça me rend très heureuse.
Pourquoi ces gens seraient extraordinaires particulièrement?
Parce que ils sont différents et que j'aime bien la différence, parce que je me sens bien, qu'on se sent bien ensemble, en fait, et qu'ils ont des trésors en dedans que pas tout le monde voit, et c'est triste, et j'essaie aussi de changer les perceptions de l'extérieur.
On dit parfois qu'une personne avec une déficience intellectuelle n'a pas de malice. Est-ce que c'est de porter des lunettes roses ou il y a des personnes déficientes intellectuelles? Cons, d'autres radines, d'autres sympathiques, d'autres généreuses, comme dans la société?
Oui, c'est comme dans la société.
OK, vous me rassurez. Là. Parce que je pensais que j'avais pas le bon handicap, finalement. Vous avez entre autres une boutique café sur le plateau. Vous voulez également... du côté de UNSIC, offrir d'autres types d'activités, vous ratissez large.
Oui, c'est ma personnalité.
Ouais.
Là, je suis un petit peu une personne qui aime l'envergure et qui a toujours, toujours, toujours des idées. C'est le petit côté artiste, je crois, et aussi entrepreneur.
Commençons par le café boutique.
Oui, bien, le café boutique, ça a commencé justement parce que mon but ultime, c'était la ferme, la fermette avec les animaux, un centre d'art. Mais je devais commencer par quelque chose. Malheureusement, les gens croyaient moins à mon projet de fermette puis mes tipis. Mmh. Et j'ai donc commencé par la boutique. Et on a comme, dès que je me suis installée, j'ai commencé avec les ateliers d'art et d'artisanat avec des groupes. Je me suis mis en partenariat avec des organismes et puis ça a très bien fonctionné. Et ça a été vraiment intéressant de voir qu'on est dans une boutique, que les gens rentrent, que les gens... Ça changeait les perceptions. Et pas seulement que les perceptions à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Les personnes qui sont là, qui se font voir de l'extérieur, ça changeait aussi leur perception dans le sens que ça dit, ben ouais, on a une boutique, nous autres aussi, puis les gens rentrent. Donc, je pense que c'était bien des deux côtés.
Mais est-ce que je comprends que, parce que vous avez un atelier du côté de Huntsic, qu'on produit là-bas et on vend sur le plateau?
Ah, mais il y a eu un processus. Ça a commencé seulement que sur le plateau. Et ouais, après, ouais. On a élargi. On est allé, parce que ça prend quand même, les ateliers prenaient beaucoup de place. Alors, on voulait avoir une souplesse. Et puis, j'ai décidé d'avoir le 4400 pieds carrés à Huntsic. Oui, on produit pour la boutique, mais comme cet été, on n'a pas touché au studio, étant donné que j'étais intensivement à la recherche de la fermette pour mon projet, on a fait les ateliers à la boutique. Et le studio, cet automne, je veux faire et je vais faire, et il devrait être prêt en novembre, une mini-fermette urbaine. Donc, des petits animaux, hérissons, cochons d'Inde.
Sur le plateau?
Non, à Huntsic, dans notre studio, plus un studio d'art. Alors, okay. Ça va être un petit peu un pont vers notre fermette.
OK.
Et puis, pour ceux qui ne peuvent pas toujours se rendre sur la fermette,
c'est vrai.
Parce que ça risque d'être, tu sais, à plus d'une heure, eh bien, il y aura cet endroit-là. Et puis, s'ils peuvent, ben, on les amène. On va s'organiser du transport.
Mais dites-moi si je me trompe, il me semble que Huntsic n'est pas réputé pour avoir, le permis de... poule urbaine, ou ça c'est Rosemont.
Il n'y aura pas d'âne, il n'y aura pas de poule. On va avoir une...
Et
quand j'appelle ça une
manger.
Fermette urbaine, c'est vraiment une idée que j'ai eue d'appeler ça comme ça. Mais écoutez, ça va être tout ce qu'on a le droit d'avoir à la maison.
Un gros pet shop.
Oui, mais avec des animaux heureux. Ouais.
Oh, c'est bien ça. Mais en même temps, si tu étais intéressant de peut-être fournir au café avec quelques aliments ou quelques... Encore une fois, pour produire ce que le café distribue, que ce soit dans les croissants, que ce soit, non?
Le lait. Je ne peux pas tout faire.
Non, mais ça aussi, c'est une question que je crains, la dispersion,
oui,
Danielle.
Oui, voilà, de là ma réponse. Le café est maintenant tenu par une autre personne et je loue des petits kiosques aussi. On partage maintenant Dadado avec des artisans, des artistes et une personne qui s'occupe du café pour que je puisse aller vers la campagne. Alors, le plan suit son cours.
Ouais. Parlez-moi des ateliers et qui prend part à ces ateliers?
Tout le monde peut prendre part à mes ateliers. Il n'y a pas de restrictions. Et puis, voilà.
On souhaite l'inclusion?
Oui, bien sûr.
OK.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tout le monde peut. Tout le monde peut venir. Je prends des bénévoles. C'est sûr que je filtre un peu les personnes qui sont bénévoles pour être certaine que ça corresponde à ce que je veux comme dynamique dans la place. Mais les gens, ça s'est toujours bien passé. Ça s'est toujours très, très bien passé. Donc, les gens de la communauté, tout le monde peut venir aider. Même quelqu'un qui se sentirait un peu déprimé, ouais, ou qui aurait besoin d'un petit peu d'amour pourrait prendre part aux ateliers.
Le plus grand obstacle jusqu'à maintenant?
Ben, je ne veux pas dire l'argent parce que...
Pourquoi
trop
pas?
Facile, mais... mais c'est sûr que plus on a de l'argent, plus on peut faire, plus on peut se permettre de faire des folies.
Est-ce le manque d'argent ou est-ce la difficulté d'aller amasser de l'argent? Parce que parfois, bon, c'est difficile de l'amasser, mais quand on cherche, on la trouve. C'est pour ça que je pose la question, est-ce que c'est le manque ou la difficulté?
Non, mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de travail, de pain sur la planche dans les dernières années avec tout ça. Donc, j'ai pas pu beaucoup m'occuper du marketing, et si on peut appeler ça marketing, mm-hmm, et tout ça. Donc, j'ai été un peu, ben, je pense pas que je peux dire négligente parce que j'avais juste pas le temps. Mais si j'avais eu de l'aide de ce côté-là, des gens, des bénévoles, j'ai eu beaucoup de bonnes idées que j'ai pas pu mettre à exécution. Donc, mais ça pourrait être ce côté-là qui a été un peu plus difficile pour moi.
Pourquoi Anne-Laure me suggère de vous demander s'il y aura des camps sur place? Je présume c'est parce qu'il va y en avoir.
Oui.
Mais quel type de camp?
Écoutez, c'est difficile à dire maintenant, mais je vais vous tenir au courant, ça c'est sûr, prochainement, très prochainement, parce qu'il y a deux endroits et c'est en train de se décider. Ça pourrait même se décider là, dans les prochaines heures. Je suis un
petit... Ah oui?
Hein? Oh, oui, 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 je suis assez excitée bon, de
c'est
ça.
C'est la semaine prochaine qu'on aurait dû vous inviter.
Ah oui, mais vous me réinviterez puis je vous en reparlerai. Donc, oui, donc il va y avoir des camps d'été, des camps d'hiver, raquettes, on va avoir chiens de traîneau. Ça va s'instaurer, bien sûr, au fil des mois. Là, je ne vais pas arriver, puis ça va tout être prêt.
Mais ça pourrait avoir lieu sur le terrain de la fermette ou on pense à louer des infrastructures
non.
déjà existantes?
Non, ce qu'on va acquérir, c'est un domaine.
Ben voyons donc.
Ben oui. Ben oui, on va avoir beaucoup de chambres. On va avoir de la place pour faire des tipis. Moi, mes tipis, c'est dans ma tête depuis trop longtemps. Peu importe ce que le monde en pense, je vais avoir beaucoup de tipis dans la forêt. Donc, il y a un petit côté forêt dans les deux endroits. Il y a beaucoup de chambres et il y a la grange et il y a beaucoup de terrain. Il y a des cours d'eau aussi. Donc, on va pouvoir se baigner. C'est pas un endroit où est-ce qu'on va s'ennuyer.
Mais justement, vous parliez des difficultés financières. Jusqu'à maintenant, d'où provient le soutien?
J'ai une personne qui supporte mon projet en ce moment, oui.
Wow!
Oui, qui supporte mon projet de fermette. Donc, après, il faut que je me débrouille puis que je travaille fort.
Lorsque vous dites « j'ai souvent eu l'occasion sur mon parcours de croiser », qu'est-ce qui vous a amené là? Est-ce que vous avez, je ne sais pas moi, une expérience en psychoéducation, une formation de... J'essaie encore de comprendre un peu le...
Mais écoutez, je suis une personne qui a beaucoup, beaucoup d'amour à donner. C'est drôle à dire comme ça. Ça fait un peu cucu, mais c'est ça. J'ai vraiment... j'adore m'occuper de tout ce qui est vivant puis de tout ce qui a besoin. Puis c'est comme ça. C'est naturel chez moi. Je peux pas vraiment avoir d'autres réponses que ça.
Donc, si ça n'avait pas été eux, ça aurait été un autre groupe. Parce que vous avez envie de vous investir dans l'humain.
Oui, tout à fait. Absolument, 100%.
Ouais.
Je pense que c'est pas mal la seule chose qui est intéressante à faire de nos jours.
C'est intéressant. Il y a une page Facebook pour en savoir davantage et surtout connaître les tout derniers détails. Qui sait, si vous nous écoutez en rediffusion, il y a peut-être des choses qui ont été confirmées depuis. Donc, facebook.com/galerie.dadado. facebook.com/galerie.dadado. D-A-D-A-D-O. Daniel Daumont, merci beaucoup.
Merci.
Et bon succès, un gros merci pour vous.
Merci beaucoup. Puis vous pouvez nous suivre sur la page Facebook, justement, voir tous les développements.
Ben
comme
oui,
vous
absolument.
Venez de dire.
On écoute Matapat, Tia, Que de peine et d'amour. Et ensuite, avec Pierre Mainville, on revient sur les parapanaméricains qui avaient lieu à Toronto au mois d'août dernier. Pierre Mainville, en entrant dans le studio, m'expliquait pourquoi il n'avait pas pu participer à l'ouverture de notre saison. Monsieur revient de la Hongrie. C'est donc, Pierre, que tout est réparé, là?
Bien, c'est presque tout réparé, là. J'avais une épicondylite au coude, puis je me suis fait opérer, puis là, je suis à 80 % là, selon les médecins. Là,
Bon, c'est-tu les contribuables là, qui ont payé votre voyage en Hongrie?
Non.
Ah, okay. Ça fait parce que moi, je ne veux pas vous envoyer là-bas si vous n'êtes pas rétabli.
Non.
Parce que là, on vous donne une bourse d'entraînement et tout, on veut que vous soyez en forme.
Exactement, mais faut quand même aller tester, voir comment se déroule le coude, puis tout ça. Donc,
mais Terrebonne, non?
Non, okay. il n'y a pas de compétition à Terrebonne.
Content de vous retrouver, ça fait quand même un petit moment qu'on s'est croisés. Je pense que c'était au défi sportif la dernière fois, puis même là, je pense qu'on ne s'est pas vus. On voulait revenir sur les Jeux parapanaméricains qui étaient disputés à Toronto du 7 au 15 août dernier. C'est en même temps, je disais, ça vaut la peine d'y revenir, même si ça fait quelques semaines, parce que pour plusieurs, si c'était la qualification pour Rio, pour d'autres, ça ne faisait que signifier que le travail doit continuer.
Ben, c'est exact. C'est très bien résumé. Le Canada, quand même, c'est bien positionné. Là, on a fait 168 médailles. Les grands champions, c'est les Brésiliens, là, eux qui vont avoir les Paralympiques. Donc, ils ont fait à peu près le double de médailles. Puis, ce que je peux dire des Canadiens en particulier, c'est que, effectivement, tu sais, j'avais parlé de quatre personnes. Je ne sais pas si tu te rappelles de mes chroniques.
Certains, non, mais je me souviens pas des je me souviens qu'on a parlé de rugby, on a parlé de judo avec un Anglo là, qui est venu ici.
Effectivement.
Mais je me souviens pas des noms.
Bon, OK, parfait. Ben, je t'en reparle. Donc, on avait parlé pour parler de la médaille d'or qu'on a eue, là, il y avait Patrice Simard.
Ouais.
Lui, c'est un gars de rugby, le rugby en fauteuil roulant, qui est un sport quand même de contact. Donc, qui pendant toute dans la finale, là, c'était contre les Américains, puis ils ont obtenu l'or. Mais pendant toute la partie, ils tiraient de l'arrière jusqu'au troisième quart. Puis au troisième quart, ils ont égalisé pour finalement s'échapper avec la victoire 57-54. Donc, ça a vraiment été... Tout un match pour le Canada qui remporte l'or et qui se qualifie effectivement pour Rio à ce moment-là.
Une immense rivalité entre ces deux pays en rugby. Là.
Effectivement. Ouais, et
ceux qui ont vu le documentaire Murder Ball, là.
C'est très bon.
Ah,
c'est excellent.
C'est
comme
très film. Violent également.
Oui.
Pas juste au niveau du sport, au niveau des propos, au niveau de la hargne entre ces deux pays, c'est assez particulier. Mettez la main là-dessus, même si c'est pas jeune. Je pense que ça n'a pas tellement changé comme rivalité.
C'est comme un match Canadien-Toronto.
Tout à fait, oui. Ouais. C'était même Canadien-Nordique à l'époque.
Oui, c'est ça, ouais. Exactement.
Ouais.
Puis au basketball en fauteuil roulant, ben, chez les femmes, j'avais interviewé Hélène Allard.
Uh-huh.
Puis les femmes ont remporté l'argent. Dans le fond, ben, ils ont perdu en finale contre les Américains. Qui était 80-72. Donc, c'est les Américains, bien sûr, qui remportent la médaille d'or. Et chez les hommes aussi, c'est la même chose qui s'est passée. Donc, ils ont eu l'argent et encore, ils ont perdu contre les Américains 62-39. C'est quand même une petite dégelée.
C'est vrai, mais... je me souviens de ce match-là qui était télédiffusé et j'ai pas pu en regarder trop parce que ça faisait mal.
Ouais, c'est ouais, ça.
L'écart était grand rapidement.
Ça fonctionnait pas pour les Canadiens. Puis, mais encore une fois, les deux équipes, que ce soit les femmes ou les hommes, ils se sont qualifiés pour Rio. Donc, c'est quand même une bonne idée. Ils pourront prendre leur revanche là-bas.
Mm-hmm.
Puis, au goalball, j'avais interviewé Bruno Haché.
Ouais.
Que lui, eux, ils ont eu la médaille de bronze. Ils ont perdu contre les Américains 3-2. C'est quand même assez serré. Puis, c'est pas un match avec un gros score. Donc, ça a dû être défensif. Puis, ils ont gagné finalement pour la ronde des médailles de bronze. Là, ils ont gagné contre l'Argentine 13-3, qui a été une cuisante victoire. Et au goalball féminin, c'est Nancy Morin. Je ne sais pas si tu connais Nancy
mm-hmm.
Morin.
Mm-hmm.
Donc, elle qu'on surnommait le bras canadien.
C'est parce que Nancy a probablement le deux tiers des buts dans un tournoi.
Oui, c'est ça. Puis, elle lance pratiquement comme un homme. Là. Elle est très forte. Donc, c'est ça. Eux aussi, ils ont perdu contre les Américains 7-6.
Décidément, on s'en sort pas. Hein?
Non, les Américains nous
font
mal.
Jusqu'à maintenant, depuis le début de cette entrevue, c'est Canada-États-Unis.
Oui, c'est ça. Puis c'est ça, mais ils gagnent contre le Guatemala 11-1.
Oui.
Donc, pour s'en tirer avec la médaille de bronze mm-hmm. et se qualifier les deux équipes encore pour Rio.
Mais je trouve ça rassurant et rafraîchissant de savoir que le Guatemala est capable d'envoyer une équipe de joueurs handicapés visuels en goalball qui disputait la petite finale.
Oui, c'est ça.
J'aurais pas pensé ça.
Bien, c'est intéressant. On dirait que les jeux, même si c'est des jeux panaméricains qui sont un petit peu moins peut-être importants que les jeux paralympiques, mais les pays envoient quand même beaucoup d'athlètes et ils sont de plus en plus performants.
Ouais.
Donc, même si c'est un petit pays, que ce soit un pays qui est en développement, bien, il envoie quand même des athlètes. Mm-hmm. Ça prouve qu'on est en train de devenir quand même... c'est des pays qui sont de plus en plus riches pour envoyer quand même des athlètes.
Ouais, ouais.
Puis, le dernier athlète que j'avais interviewé, c'était Justin Kern, qui était un anglophone qui est venu s'entraîner ici.
Ah, c'est lui, ça.
À Montréal. Okay. Lui, au judo, ça a peut-être été un petit peu moins bien été. Il a terminé 9e. Puis, lui, il a été en repêchage, puis il a perdu contre Juan Castellanos, qui vient de la Colombie. Donc, lui, sûrement qu'il a été peut-être un petit peu déçu. Il s'attendait de faire un podium. Mais bon, je pense qu'il ne s'est pas non plus qualifié pour les Jeux. Mais bon, il reste encore du temps pour se qualifier.
OK. Et bien évidemment, c'est difficile de parler des Parapanames sans parler d'Aurélie.
Aurélie, moi, je regardais ça, c'est assez impressionnant.
Aurélie Rivard, qui est nageuse, qui est comme la Benoît Huot féminine.
Exactement.
Plus jeune.
Le Canada, je t'ai dit tantôt, ils ont remporté 168 médailles. 91 des médailles ont été remportées en natation. Puis Aurélie, elle, en a gagné 6 d'or et 1 d'argent.
Ouais.
Donc, et tu me parlais de Benoît Huot, qui, lui, ça a été son inspiration à elle. Donc, tu sais, souvent, on dit, ah, c'est qui ton... Tu sais, qui t'inspire dans la vie, souvent, ben on voit que Benoît, il a inspiré, il continue d'inspirer d'autres jeunes, sûrement. Puis voilà que là, elle apprend la relève pour pouvoir performer. Et on souhaite, en plus, parce qu'elle, son rêve, c'est de gagner une médaille d'or aux Jeux paralympiques. Mm-hmm. Donc, on lui souhaite tous les chances de remporter son rêve.
Il n'y avait pas d'escrime à Toronto.
Non, il n'y avait pas d'escrime. Ça, c'est encore... Comment je peux dire?
C'était pour vous permettre de vous reposer.
Oui, mais non, pas tout à fait. Là, mais c'est très politique.
Ouais.
Puis la prochaine fois, ça va sûrement y avoir lieu. Là, c'est juste que pour l'instant, là, ça... Il y a une mauvaise... On dira qu'il y a eu une mauvaise communication.
OK. Vous pensez continuer combien de temps, Pierre?
Moi, ça devrait être mes derniers Jeux si je me qualifie, parce que effectivement, là, je me suis fait opérer. Ouais. J'ai perdu beaucoup de points là, dans les Coupes du monde, les championnats du monde. Mais je suis pas déçu quand même là, de tout ce que j'ai pu accomplir. Puis il reste encore quelques compétitions, puis on verra ce que ça va donner.
On veut l'annonce en direct ici. En premier. En
D'accord, je vous le promets.
Parlez-moi un petit peu de la couverture. Je ne sais pas comment vous avez suivi ça, de près, de loin. Vous étiez sur place?
J'étais pas sur place parce qu'effectivement, j'étais en train de récupérer mon bras. Et ce temps-là, je le consacrais beaucoup à mes enfants aussi. Donc, mais je l'ai suivi beaucoup par Internet. J'ai vu beaucoup de vidéos sur soit YouTube. Puis c'était quand même intéressant. Là, j'ai surtout vu le rugby en fauteuil roulant, mm-hmm. là, qui était super intéressant. J'ai vu des petits moments aussi de basketball. Mais la couverture en tant que telle, c'était un peu bizarre des fois. C'est sûr qu'ils font c'est de mieux en mieux, on dirait, à chaque année, ou plus à chaque événement important, comme les Paralympiques ou les Jeux Parapanames. Les heures, je ne sais pas si ça convient à tout le monde. Mais bon, toi, je ne sais pas comment tu as trouvé ça.
J'ai surtout syntonisé la programmation en soirée, parce que c'est là que j'étais disponible pour m'asseoir devant la télé. J'étais un petit peu déçu parce qu'il y avait une application pour les Jeux panaméricains qui nous permettaient de voir des compétitions en direct. Et je ne sais pas si c'est parce que je ne l'ai pas trouvé, mais cette application-là n'était pas en fonction pour les Parapanames. Est-ce qu'il y en avait une autre? Je ne le sais pas. Et sinon, j'avoue que je suis souvent tombé sur du basket en fauteuil ou de la natation, puis ne connaissant pas vraiment les joueurs en basket, surtout si c'est Canada-États-Unis, sont à peu près tous des noms anglophones. Puis même Allard, tu sais, j'arrivais pas à savoir qui était qui, puis donc je pouvais pas vraiment profiter de la couverture. Mais j'ai quand même senti un effort de diffusion en heure de grande écoute du côté de la CBC.
OK, j'ai pas regardé à la CBC. J'ai plus... ben, comme je te dis, j'ai vraiment plus regardé sur Internet. Mm-hmm. Moi, comme tu dis, l'application qui donnait, des fois, j'avais comme rien. Ou soit qu'il y avait une caméra qui était branchée, qu'on voyait comme un non-match. Donc, c'était juste la foule ou qu'il se passait rien à la caméra. Donc, ça m'est arrivé. Mais à part ça, j'ai pas... j'ai plus suivi vraiment les résultats, disons, pour pouvoir m'informer, mais ça m'intéressait quand même d'aller voir ça.
Je sais que, vous avez quelques infos, là, un petit brin d'histoire sur l'existence des Jeux Parapanames.
Oui, effectivement.
Histoire que je ne connais pas.
Bien, écoute, ça a commencé en 1999 au Mexique, donc en 1999. À ce moment-là, c'est un petit peu comme les Jeux olympiques, les Jeux Paname, dans le fond, ils étaient à Winnipeg. Puis les Parapanames étaient au Mexique. Puis là, ça a été la même chose en 2003. Les Jeux, c'était pour les Parapanames en Argentine et les Jeux Paname en République dominicaine. Puis là, après ça, à partir de 2007, là, ils ont tous rejoint ça ensemble. Puis là, ça a commencé à être... en 2007, c'était à Rio. Après ça, c'était Guadalajara au Mexique. Mm-hmm. Et en 2015, à Toronto. Donc, au début, il y avait 1000 athlètes, 18 pays. Là, maintenant, il y a 28 pays, 1600 à 1800 athlètes. Donc, puis avec beaucoup plus de sport. Donc, on voit que le sport est de plus en plus en progression là, pour les Jeux Parapanames.
Quelle est la prochaine destination?
Oh! 2019? Qu'est-ce que tu viens de me déculotter?
OK.
je le savais, mais je me rappelle pas. Ouais.
Pendant qu'il se rhabille.
C'est ça.
Juste... C'est une compétition. J'écoutais un petit peu la couverture tant des Parapanames que les médias réguliers ne parlaient pas, ou même les Panames. Puis on n'en parlait pas beaucoup parce que il y avait les Blue Jays qui étaient en finale. Il y avait le tennis ici. Il y avait un paquet d'excuses pour finalement laisser passer une compétition internationale que certains calculaient de second ordre, les Jeux Para ou même Paname. Mais comme on le disait tantôt en parlant du Guatemala, et je pense que c'est particulièrement vrai pour les gens en situation de handicap, à un moment donné, c'est bien beau d'aller du côté élite, mais parfois tu veux avoir une chance de gagner. Et il y a de ces pays qui, avec cette compétition-là, ont peut-être une motivation supplémentaire, contrairement à, supposons, un championnat d'Europe où là, tu te dis, je vais finir 44e, oui, j'y vais pour apprendre. Mais là, de dire, je vise les 10 premiers, ça peut être un incitatif non seulement pour cet athlète-là, mais pour le programme de ce pays-là et pour les athlètes qui poussent en dessous. Donc, indépendamment de la couverture, pour bien du monde, c'est une compétition importante.
Ben moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Surtout que souvent, les pays accordent pratiquement autant d'importance aux Parapanames que les Jeux paralympiques. Mm-hmm. Donc, comme nous au Canada, les résultats, que ce soit en championnat du monde ou en Coupe du monde, vont moins compter que le Parapaname. Donc, c'est une compétition qui est très, très, très importante.
Et lorsque tu dis, Pierre, il y a encore quand même des chances de se qualifier, que ce soit en parlant du judoka ou de d'autres situations, c'est quoi? C'est que il y a d'autres compétitions où si tu finis, premier, deuxième, tu y arrives. C'est-tu uniquement des championnats du monde ou comment ça fonctionne en général?
Ben moi, je vais parler pour l'escrime. C'est la zone que je connais le plus. Nous, en Coupe du monde, on fait des points, peu importe la position que t'es. Okay. Bon, disons, admettons, tu finis premier, ça te donne 32 points, mm-hmm. deuxième, 26, après ça, 20, après ça, rendu dans les 32, là, quand t'es entre les 32, ça te donne 4 points, ça te donne presque plus de points. Donc, ces points-là, ils comptent au total pendant toute l'année, puis c'est les 10...
Avec une date limite à un moment donné, là.
Oui, c'est sûr. Ouais. C'est jusqu'en avril. Donc... À partir d'avril, ils vont tous calculer ces points-là. Puis les 10 au monde, les 10 meilleurs.
On arrête. On n'a plus de temps. On se retrouve pour Excellibre demain. Merci Pierre et tous les autres.
Merci.